Bonjour, ici Catherine Dionne et bienvenue à cette nouvelle édition de The UXer. Aujourd'hui, nous avons pour vous une entrevue enregistrée au Web à Québec avec David Briung, responsable des opérations du Tech 3 Lab, qui nous parle de sa conférence qu'il a donnée en collaboration avec Pierre-Marjorie Léger. Également, nous rejoindrons Jean-François qui interviewe Cynthia Savard-Saussier, directrice UX chez Shopify. Ils parleront du livre qu'elle a co-écrit, Tragic Design. Nous vous rappelons également que les entrevues enregistrées au WAX sont disponibles en vidéo sur notre site internet theuxer.com. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François.
Bonjour Catherine.
Il y a quelques semaines, on est allé au WAX, c'est-à-dire le Web à Québec. C'est le plus gros événement numérique francophone en Amérique du Nord. Dans le cadre d'un partenariat avec eux, on a fait plusieurs entrevues. On vous en a parlé au dernier épisode. Aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième entrevue qu'on a faite. C'est avec David Briung. C'est le responsable du Tech 3 Lab. Plus précisément, il se retrouve à avoir un poste de gestionnaire de projet. Il était là avec Pierre-Marjorie Léger. Il faisait une conférence qui s'appelait « Accélérer et enrichir la recherche en expérience utilisateur à l'aide des neurosciences ».
C'est très intéressant, effectivement. Puis, eux sont en train d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle derrière ça pour, à chaque fois que des gens sont testés, avoir plus d'informations qualitatives sur ce genre de réaction ou d'être plus en mesure d'avoir de la qualité sur les réactions des gens.
Oui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, quand on parle de laboratoire d'expérience utilisateur, bon, d'emblée, on va parler oculométrie, c'est ce qu'ils font aussi. On va parler beaucoup aussi de peut-être de data, de données. Mais on a toujours une espèce d'impression qu'ils vont aller faire du quantitatif, alors qu'eux, ils donnent beaucoup, beaucoup au lab dans le qualitatif. Donc, ils vont même aller chercher les émotions, ils vont aller chercher justement pas juste où est-ce que l'œil regarde, mais qu'est-ce que c'est l'émotion qui est vécue, tout ce qui est par rapport aux data que le corps peut envoyer par
exact.
Rapport à l'émotion qu'il vit. Donc, on n'est vraiment plus dans l'univers exclusivement du quantitatif.
Ouais, mais il y a un débat, je pense, dans la communauté, ou peut-être pas un débat, mais j'ai eu des réactions parce qu'ils sont effectivement dans la mesure extrême. Là, on parle de casque pour mesurer les ondes cérébrales, mesurer aussi les réactions, la sueur, le regard avec l'oculométrie. Ils sont dans la mesurabilité extrême. Et oui, ils en tirent des conclusions. Et je pense que c'est de là qu'un peu dans la communauté universitaire, il y a des réactions en ce moment à dire, est-ce qu'on mesure trop l'humain? Est-ce qu'on est en train de dépersonnaliser un peu le processus d'expérience utilisateur en faisant ça? Je pense que les questions sont là. Est-ce qu'effectivement, on a des conclusions qu'on veut avoir avec ça?
Mais c'est sûr qu'on a quand même une certaine réticence des fois parce que, bon, quand on va poser des électrodes, quand on va mettre finalement des compléments pour mesurer, c'est des choses que normalement les utilisateurs, ils n'auront
ah,
pas
oui, voilà.
Ça va être le temps. Donc, est-ce que ça vient entraver le test? Est-ce qu'au contraire, ça vient l'aider? Comment est-ce qu'on fait pour intégrer tous ces petits composantes-là sans finalement altérer la donnée qu'on va aller sortir du test? Donc, c'est toutes des choses qu'ils sont venus aborder. Puis aussi les problématiques au niveau de la gestion, parce que organiser des tests utilisateurs, oui, ça peut être fait de façon très très rapidement puis très facilement, mais on a tout le volet aussi où est-ce que là, il faut aller chercher les gens, il faut les amener au lab, il faut contextualiser cet environnement-là pour pas que les gens, justement, aient une réaction un petit peu trop forte par rapport à tout ce qui est hors contexte à l'utilisation. Donc.
Et ils font des tests aussi. L'année dernière, ils m'ont dit qu'ils avaient fait des tests sur place dans le Vieux-Port pour tester le Nintendo Switch.
Oui.
Donc, les gens sur place pouvaient... Fait qu'ils sont capables aussi de déplacer leurs installations, mais ils amènent aussi quelque chose d'immense dans l'industrie. Là, ça va être dans les prochains mois. C'est la rapidité avec laquelle on peut faire des tests et en tirer des rapports. Ça, c'est complètement nouveau dans l'industrie, alors qu'avant, on pouvait passer des semaines à faire des tests puis à en tirer des conclusions. Après, là, fort de l'intelligence artificielle qui est dans le système, on va pouvoir te sortir des conclusions beaucoup plus rapidement. Là.
Puis, parlant de quelque chose qui est très gros dans l'industrie, il me disait que bientôt, il va avoir un studio de test
mobile.
J'appelle studio, mais
oui.
Je ne sais pas trop comment finalement l'appeler de façon officielle, mais ça va être mobile, en fait.
Oui.
Donc, on n'aura plus nécessairement besoin de se déplacer
exact.
Dans les laboratoires du Tech 3 Lab. On va pouvoir aller rejoindre l'utilisateur sur le terrain. Ça, c'est quand même majeur en termes de test, tant au niveau de l'oculométrie que de tout ce qui est la neuroscience.
Oui, puis on le sait, dans notre industrie, c'est le petit côté que nos clients ont un petit peu de difficulté à vouloir intégrer parce qu'on se dit « Ah, ça va coûter cher. Ah, ça va être long. » Puis depuis 6 mois, 1 an, on nous parle de faire des guérilla tests. Allez-y rapidement, aller chercher les utilisateurs, faire des petits tests sur 2-3 jours, revenez nous voir. Là, on amène la mesurabilité aux utilisateurs et dans ces tests-là, et la rapidité d'exécution de ces tests-là, elle va faire une grosse différence dans le futur. Là.
c'est aussi très en lien avec la mission que le Tech 3 Lab se donne, parce que c'est assez unique comme mission. Donc, ils veulent, oui, améliorer tout ce qui est test et expérience utilisateur, développer des outils, mais toujours avec l'optique de pouvoir l'intégrer dans le marché pour que les gens puissent facilement appliquer ça à leur projet, pour que les entreprises soient en mesure de les utiliser, ces outils-là, parce que
exact.
C'est bien beau la mesure, mais si on n'est jamais justement capable, comme tu le dis, d'intégrer ça dans un projet, l'outil reste dans
non.
le tiroir, comme
non,
on
non,
dit.
Effectivement. Je pense que ce qu'ils amènent, effectivement, c'est la vitesse. Puis la vitesse va permettre d'intégrer plus rapidement dans le processus de conception, puis de permettre à nos clients, puis aux gens qui sont sur le terrain, de s'améliorer plus rapidement.
Demain après-midi avec mon directeur, le professeur Pierre-Majoré Clégé, qui est accélérer, enrichir l'expérience utilisateur, la recherche en expérience utilisateur à l'aide des neurosciences.
Et donc les neurosciences avec Pierre-Majoré, donc tu travailles au Tech 3 Lab avec lui?
Absolument, je suis responsable des opérations au Tech 3 Lab, donc je m'occupe vraiment de toute la gestion des opérations, de l'organisation de tous les tests qui se passent au laboratoire, les relations avec les partenaires, mais en même temps toute la gestion interne du travail.
C'est quoi la mission du Tech 3 Lab à Montréal? Donc, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, on en entend beaucoup parler, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est.
Absolument. En fait, le Tech 3 Lab, c'est aujourd'hui le plus gros laboratoire de recherche en expérience utilisateur en Amérique du Nord. Okay. Pas au monde, on ne peut pas le trouver. Et notre objectif, c'est avant tout, on a deux objectifs principaux. On a la recherche, c'est partie de l'Université HEC Montréal. On a aussi le côté recherche pratique. On a des partenaires de recherche. Depuis maintenant près de 6 mois, il y a la chaire de recherche en expérience utilisateur qui a été mise en place. Et on a le côté aussi formation. On forme en fait les chercheurs en UX de demain. Tous les étudiants qui viennent chez nous pour arriver sur le marché.
Avec le micro-programme?
Il y a le micro-programme, il va y avoir aussi la maîtrise d'un expérience utilisateur qui va être annoncée dans pas longtemps. Et en fait, il y a la recherche, le laboratoire et tout ça. Et aussi un MOOC qui sera en ligne sous peu.
Oh, c'est intéressant, ça pique ma curiosité. Il y a aussi, vous avez une approche qui est particulière. On a quelques programmes en enseignement sur l'expérience utilisateur. Donc, on a ceux qui sont plus dans le volet psychologie, donc sociologie. Vous, c'est quoi exactement l'approche que vous avez?
Non, c'est ça. HEC Montréal, c'est une école de commerce, même à la base, aux études commerciales. Notre point de vue, c'est vraiment de comprendre le business et de comprendre l'expérience utilisateur. Améliorer l'expérience utilisateur permettra d'améliorer une business en tant que telle. Si on améliore le produit, on améliore l'expérience, on améliore le service, ça va se sentir forcément sur le business, sur comment les gens vont intégrer ça. L'objectif, c'est vraiment de former des chercheurs de demain qui comprennent pourquoi l'expérience utilisateur va améliorer le business. Donc c'est donnant-donnant, ça va forcément améliorer pour tout le monde.
Une particularité aussi que vous avez au Tech 3 Lab, c'est que vous avez des outils technologiques qui sont accessibles au Tech 3 Lab. Donc, il n'y a pas possibilité d'aller faire ce genre de tests-là ailleurs, nulle part au Canada, si je me trompe.
C'est possible de les faire, en fait. La valeur ajoutée du Tech 3 Lab, oui. C'est la triangulation. C'est ce qu'on a fait depuis aujourd'hui près de 5 ans. C'est tous les outils qu'on a chez nous, ces outils, pas commerciaux, mais de recherche, qu'on peut acheter. On a l'autulométrie, l'EDA, l'électroencéphalographie, ces choses-là, ou FaceReader qui a un outil d'analyse des émotions faciales, on peut l'acheter dans le commerce. Mais nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la triangulation. On triangle toutes ces données-là en même temps, et le fait qu'on puisse les synchroniser en même temps, on nous donne plus de valeur ajoutée.
Puis, toi, là-bas, tu es gestionnaire, donc tu n'es pas UX.
Absolument. Moi, j'ai une formation en gestionnaire. Quand j'ai fini ma maîtrise, le micro-programme ou la maîtrise en UX n'existait pas. L'UX commençait, tout le monde UX venait de commencer, quelque chose comme ça. J'ai une maîtrise, en fait, en technologie de l'information. Mais ma recherche de maîtrise, ma thèse de maîtrise, c'était vraiment sur l'expérience des chercheurs sur les pages de Google. Comment les gens interagissaient avec les pages de Google et les pages de recherche.
Puis qu'est-ce qui t'a amené finalement vers le Tech 3 Lab? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'est...
Ça s'est fait très naturellement. C'est, avant de finir mon bac, j'ai fait un bac en gestion internationale, oui. J'ai découvert tout le monde du UX, l'expérience utilisateur. J'ai fait mon parcours à Alambiqué, une école d'art, il y a très longtemps.
Okay.
Design et tout ça. Mais je me suis retourné en gestion, parce que j'étais plus un gestionnaire dans ma formation. Qui je suis un gestionnaire. Et au cours de mon cursus en fait, scolaire, j'ai rencontré Pierre-Majoré Clégé, qui était mon professeur. Et justement, il y a eu un bon fit, et il m'a dit, on a un poste, tu veux chercher quelqu'un en gestion au laboratoire, viens avec nous. Et je suis rentré en tant que chargé de projet, gestionnaire de projet, maintenant responsable des opérations.
C'est très bien. En expérience utilisateur, une des choses qu'on va remarquer, comme on est tous justement dans des, on est dans des tests, on va aller chercher des informations sur les users et tout, mais il y a tout un aspect de gestion qui n'est pas traité très souvent et qui n'est pas nécessairement évident. Il y a beaucoup de UX designers qui veulent se lancer dans des tests, qui veulent mettre en place des outils de validation, mais qui ne savent pas comment aborder finalement la gestion de tout ça. Toi, est-ce que tu dirais que c'est une expertise qui est en devenir, la gestion comme ça, d'expérience utilisateur?
C'est, je dirais que moi, j'ai fait de la gestion de projet. C'est surtout de la gestion de projet qui est intéressant. Les tests utilisateurs qu'on trouve aussi, nous, on est basé sur un système itératif agile. Tous nos tests sont en agilité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gérer tout ça, d'avoir une vue d'ensemble et de faire le suivi avec tous les projets. Je travaille avec un chef de projet UX aussi qui est avec moi, avec une technicienne scientifique qui est là aussi, et tous les trois, on forme vraiment le cœur du comité opérationnel. À partir de là, on peut gérer tous les projets avec nos partenaires. Donc, c'est la gestion de partenariat, la gestion des opérations au quotidien, organiser, préparer le matériel. Il faut forcément avoir du matériel qui fonctionne, préparer les tests, s'assurer que tout fonctionne de A à Z. Il y a beaucoup de préparation en amont pour s'assurer que le test fonctionne bien. Il y a aussi la livraison en arrière pour livrer un rapport qui sont pour les partenaires. Donc, c'est quand même beaucoup de choses à organiser, mais ça se fait bien.
Mais tu parles aussi, je t'ai entendu dire le mot agile. Donc, on s'entend, il y a deux écoles de pensée dans le UX design. Il y a des gens qui sont très pro-agile. Il y a des gens qui pensent que le UX design, c'est quelque chose qui est plus waterfall carrément. Vous fonctionnez complètement en agile.
On va fonctionner, je dirais, 90% en agile. Pourquoi? Parce que nos partenaires, ils nous appellent, justement, les partenaires de recherche qu'on a avec la chaire. Ce sont des partenaires qui veulent avoir des projets qui s'incluent dans des itérations en fait, de développement. Ce sont des partenaires qu'on va avoir, ils vont dire, on vous propose quelque chose, testez le produit, revenez-nous avec votre envergure de données, la triangulation qu'on a, et on essaie de leur revenir très rapidement. Donc le plus rapidement possible qu'on peut, c'est-à-dire dans 2 semaines, si on peut avoir un rapport, quelque chose comme ça, qui nous dit, voilà ce qu'on a, voilà les résultats qui sont là. Et eux, ça leur permet d'avoir des résultats et de modifier leur développement. Au sein du laboratoire, au sein de moi, tout dans lequel je suis depuis maintenant 3 ans, l'agilité est très importante pour nous, au niveau du design et tout ça. On est obligé de réagir très rapidement à tout ce qu'on fait. Au niveau de la recherche, surtout, quand on développe un logiciel, on ne peut pas attendre 6 mois pour venir à des résultats en disant bah voilà, l'application que vous avez testée il y a 6 mois, ça ne fonctionnait pas. Ah oui, mais on a fait 5 itérations depuis. Et on l'a enlevé ce qui ne fonctionnait pas, on le sait aujourd'hui.
Mais c'est quand même particulier. Donc, tu me dis, il y a des délais de 2 semaines pour répondre. Quand on pense à la recherche, souvent, on pense à des délais qui sont beaucoup, beaucoup plus longs. Comment vous arrivez finalement au niveau de la gestion à faire tout ce qui est recrutement, aller chercher les utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs sont dans les bonnes personnes, faire les tests, c'est énormément de travail. Comment tu gères tout
pour
ça?
Pour faire un projet, on va dire, dans livraison de 2 semaines, quand on parle de 2 semaines, c'est principalement la livraison, du début de la collecte jusqu'à la livraison du rapport. Il y a quand même un travail de recherche important en amont, mais ça peut s'organiser très vite. Pourquoi? Avec HEC, on a des outils qui me permettent d'aller vite. On a un panel d'utilisateurs, le panel des étudiants, le panel de l'HEC Montréal, qui me permet de recruter très rapidement. On a l'habitude des tests qu'on fait. Donc on sait qu'un test, on fait des tests faciles. Un test avec une livraison en 2 semaines, ça ne va pas être un test compliqué. On ne va pas chercher à changer le monde et aller sur Mars. On va essayer de comprendre une interface basique avec une question précise. Il faut une question précise pour arriver à un résultat précis. C'est ce qui me permet d'avoir vraiment des résultats très rapides.
Donc, ça prend quand même un certain cadre puis absolument. Une certaine définition de la problématique avant de se lancer pour essayer à être
absolument,
rapide.
Ouais. On ne peut pas partir comme ça sur tout rien. Une fois, comme tu dis, un cadre très défini. Les partenaires qui ont fait affaire, qui ont des résultats très rapides, savent qu'on ne peut pas changer le monde. On est là pour répondre à une question avec un certain nombre d'utilisateurs. On n'est pas là pour faire 200 utilisateurs, pour faire un test rapide, un test de peut-être appelé guérilla, mais pas à ce point-là. On a quand même des données très, très utiles, très importantes. Et on a une équipe derrière, on a des étudiants qui sont là pour apprendre, ce qui nous permet de coder et tout ça. Il y a quand même beaucoup d'heures, c'est des 2 semaines qui sont très remplies pour toute l'équipe, parce qu'on fait un suivi énorme, mais ça nous permet aussi d'avoir des résultats utiles pour le partenaire.
Si quelqu'un voulait se lancer là-dedans, quel genre d'études de cas vous prenez actuellement au T3Lab? Quel genre de questions qu'on peut aller faire valider chez vous? Parce qu'on parlait tout à l'heure justement de triangulation de données. Qu'est-ce qu'on va aller valider avec ces données-là?
On va chercher à valider, en fait, c'est la complexité du comportement humain face à une interface. C'est-à-dire, on va avoir l'autonométrie, où est-ce que les personnes regardent ou ne regardent pas, on va le savoir. Les émotions, qu'est-ce que va être les émotions de cette personne pendant qu'elle a regardé. Et aussi l'activation, quel est son état d'activation, est-ce qu'elle va être stressée, est-ce qu'elle va être calme. Le fait de synchroniser les trois va nous donner une réponse enrichissante par rapport au travail qu'on propose.
Quand tu dis triangulation, est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur d'une solution que vous avez déjà ou c'est quelque chose que vous faites par la suite?
C'est une solution qu'on a chez nos laboratoires et qui est en train d'être développé aussi un peu plus. Okay. On va pas en dire plus de détails. Mais...
Est-ce que c'est par rapport à ce que vous aviez présenté, si vous avez présenté il y a 3 ans dans une conférence sur l'usabilité, donc un embryon d'une solution de ce type-là, est-ce que c'est la solution que vous utilisez en ce moment?
Absolument. En fait, on a développé ce qu'on présentera aussi demain après-midi, c'est-à-dire des heatmaps physiologiques, ce qu'on appelle, et aussi on a développé des nuages de points, qui nous permettent, à travers un circuit complexe, présenter en fait l'état d'une expérience ou de moins d'une utilisabilité d'une tâche sur une interface donnée. Ce qui permet en fait de se comparer par rapport à d'autres, c'est très important, et aussi de comprendre à quel niveau on se situe.
Sur quel genre de projet vous travaillez en ce moment pour mettre votre produit à l'épreuve puis le peaufiner?
Depuis qu'on a annoncé en fait la chaire de recherche au mois de Tom, on travaille avec 7 gros partenaires qui est Desjardins, Assurance et Banque, D-Box, JDA, Sobase, Vidéotron, si je n'oublie pas. Je pense que j'en oublie un ou deux, mais je ne sais plus.
Donc quand même des grandes industries qui s'intéressent au projet.
Absolument. Les très très grandes industries s'intéressent à l'UX. Ils sont obligés. Les banques ont pris un certain retard depuis un certain nombre d'années sur l'expérience utilisateur qu'on peut avoir envers ces applications mobiles, envers le web, choses comme ça. Ils s'intéressent à ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Quand j'écoute les clients que tu nous proposes aussi, je me dis, est-ce que le choix d'aller vers de l'agile, ça a été drivé plus par les clients que vous avez reçus ou c'était un choix que vous avez fait préalablement avant de vous lancer dans des partenariats?
En fait, je dirais qu'on fera les deux. Okay. Il y a des partenariats qui vont travailler en agile pour des projets de développement beaucoup plus rapides et il y a des partenaires qui vont avoir plus de temps, qui ont des cycles de développement beaucoup plus longs. Okay. Parce qu'il y a des produits qui ne se font pas en une semaine. C'est quand ça sort de l'application mobile ou du test web, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il y a des partenaires avec qui on prend à prendre plusieurs mois pour développer des choses plus importantes, mais là on va pouvoir développer des tests beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus complexes. Au-delà de faire répondre à une question particulière, on va répondre à un ensemble de choses.
Donc vous
n'êtes
pas 100% une méthode ou l'autre méthode, vous alternez dépendamment de la situation, laquelle qui répond plus à la problématique.
Oui, c'est ça. L'idée c'est que nous on rentre dans les processus agiles. Au sein du laboratoire, le test agile, on en fait, mais le test ne sera pas agile. On va faire un test, on va le commencer, on va le finir. Mais on rentre dans un processus agile et on va concevoir au pire le test utilisateur en agilité. Faire les tests, s'assurer que ça fonctionne bien, faire les tests. L'idée de commencer un test, c'est que le prototype ou ce qu'on utilise soit fonctionnel et que le test soit le plus réaliste possible pour le participant, l'utilisateur.
Dans le cadre agile, est-ce que vous avez besoin de faire plusieurs séries de tests ou c'est vraiment
Il peut y avoir. On a fait des tests, on a fait des recherches avec des partenaires où au final, pour arriver à un test final d'utilisabilité, on a fait 5-6 itérations. Parce qu'au final, on a besoin de comprendre comment on va faire le test. À partir du moment où on sort de l'écran, des choses comme ça, on utilise des outils qu'on ne s'est jamais servi et il y a du bricolage, il y a de la R&D. Mais tout cela à réfléchir autour, comment on va faire ça? Comment on peut étudier le comportement sans entraver l'expérience? Tu prends une expérience de cinéma, tu ne veux pas mettre une caméra devant la face, sinon tu ne regardes plus l'écran, des choses comme ça. Donc on est obligé de faire des tests, donc ça nous est arrivé de faire des tests, des itérations, pour arriver au final à un test qui, le vrai test final, qui lui, on va avoir des vrais participants pendant un certain temps, faire nos collectes et avoir les vrais données.
Donc finalement, vous testez un peu vos tests au fur et à mesure, ça permet de peaufiner l'outil.
Aussi, absolument. Il y a beaucoup de tests qu'on est obligé, on fait de la R&D, on a un laboratoire de recherche, et on développe des outils, on développe des techniques. On va développer des mesures, on va développer des contextes aussi, savoir comment faire le test. Le laboratoire fait aussi de la recherche fondamentale, donc on a aussi de la R&D à un certain niveau, en plus de la recherche pratique qu'on a avec la chaire de recherche.
En recherche fondamentale, actuellement, vous vous intéressez à quel type de sujet?
Actuellement, on s'intéresse, je touche moins à ce niveau-là, donc je te dirais, on va reprendre un des sujets qui sont toujours le testing en marchant. C'est un sujet qui nous touche depuis un certain temps. Le chercheur François Courtemanche avait fait des tests il y a 2-3 ans là-dessus, sur comment tester en marchant. Ça influence le comportement et le risque que ça apporte à ce niveau-là. La recherche continue à ce niveau-là. Il y a d'autres recherches qu'on avait fait, on va dire, le travail sur les bureaux actifs, on appelle les bureaux debout. Est-ce qu'avec un bureau actif, le travail est plus important? Est-ce qu'avec un treadmill, ça fonctionne beaucoup mieux? Choses comme ça. Donc là, on a des chercheurs en laboratoire, Élise Lamonté-Lemoine, François Courtemanche et les trois directeurs, Pierre-Major Cléger, Sylvain Sénécal et Marc Coudette, qui font toute la recherche à ce niveau-là.
Je te remercie d'avoir pris ton temps aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Si les gens veulent en savoir plus sur le Tech 3 Lab, en savoir plus sur ton travail, te poser des questions, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux?
On a une page Facebook du Tech 3 Lab qui est un peu active. Sinon, il y a le site internet tech3lab.hc.ca. On peut retrouver toute l'information. Et sinon, on est quand même à HEC Montréal pour l'école, donc on met ça en avant. Et vous oubliez le MOOC qui sera en avant dès le mois prochain, qui va être en ligne et ouvert à tous pour comprendre justement les premiers pas d'expérience utilisateur et pour savoir à quoi ça coûte.
Si vous voulez en savoir plus sur le Tech3 Lab ou la neuroscience, nous vous conseillons bien entendu de consulter le site web du Tech3 Lab. Vous pouvez également vous inscrire au micro-programme en expérience utilisateur en contexte d'affaires donné par le HEC. Vous trouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Jean-François, tu as rencontré Cynthia Savard-Saussier et toi.
Ben oui, je suis allé voir Cynthia, que je connais depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui est très active sur la scène UX à Montréal, au Québec. Elle a fait des conférences à New York. Elle s'est fait connaître vraiment très, très largement. Elle a une réputation internationale dans le design UX.
Quand même
UX.
Une figure du UX québécois.
Oui, quand même. Oui, toute jeune. Puis elle a fait sa marque. Elle a des beaux sujets de conférences à chaque fois. Et là, elle a écrit un livre l'année dernière. À peu près en même temps où elle mettait au monde un petit garçon. Alors, quand j'ai fait l'entrevue, son fils était avec elle. C'était une belle entrevue. Et donc, le sujet de son livre parle du design qui a une influence sur nous en tant qu'être humain, qui peut aller jusqu'à causer des dommages physiques. Mais dans le cadre de l'entrevue, on couvre aussi tout ce qui est, en général, ce que le design peut avoir comme effet sur nous, qui peut être des émotions négatives. Ça peut être un design qui va nous amener à prendre des mauvaises décisions aussi, là.
Puis le nom du livre, c'est « Tragic Design », donc j'imagine qu'il y a eu quand même quelques cas où est-ce que c'est allé quand même assez loin, les mauvaises décisions.
Oui, absolument. Dans l'entrevue, elle va nous expliquer le cas de Jenny qui est dans le domaine médical, puis qui fait effectivement, ou qui a effectivement quelque chose de très grave, lui arrive. Je vais le laisser pour l'entrevue, mais il y a quelque chose de grave qui arrive, donc causé par un mauvais design dans un hôpital sur un écran de moniteur, là, comme on voit quand on va dans les hôpitaux. Donc, ça peut aller jusque-là, évidemment. Il y a des processus qui peuvent être mis en place, mais notre responsabilité, nous, en tant que UX designer ou que UX, en général, peut avoir des implications qui vont potentiellement jusqu'à la mort, là.
C'est quand même intéressant de mettre ça en comparaison avec le fait qu'on vient de parler justement de tests utilisateurs. Puis une des choses qui peut empêcher d'avoir des mauvaises décisions comme ça qui se prennent, c'est d'aller tester nos solutions.
Exactement.
Mais malgré les tests, parfois, il y a certaines décisions qui peuvent être laissées parce que en test utilisateur, on va aller chercher certains personas, mais parfois, ça peut arriver que certaines personnes ne soient pas prises en compte pendant les séances de test et c'est là
c'est
que les erreurs peuvent être coûteuses, si on peut le dire comme ça.
Oui, absolument. Je pense qu'on ne contrôle pas complètement. Quand on fait des tests utilisateurs, on parle de 3, 20, mais c'est jamais les centaines de milliers de personnes qui potentiellement parfois testent nos applications ou utilisent nos applications. Parfois, ça a des incidences sur des animaux d'élevage, ça peut être plein de choses. Puis une petite erreur peut avoir une implication à très long terme, mais ça peut en avoir sur les émotions, comme je disais tout à l'heure, qui peut causer des suicides, causer plein de choses. Donc, je pense que c'est une partie du travail dont on a la responsabilité, mais qu'on ne tient pas toujours compte. Hein. Quand on fait quelque chose,
c'est effectivement un sujet qu'on n'aborde pas souvent parce qu'on va beaucoup parler justement des « dark patterns ». Ça, c'est autre chose. Où est-ce qu'on veut, par des mécanismes douteux, amener l'utilisateur à faire quelque chose que lui, à la base, ne cherchait pas nécessairement à faire.
Ouais.
Là, on est dans un autre univers complètement différent où est-ce que on va faire des choses à l'utilisateur, on va avoir une influence sur ses émotions, sur son quotidien, mais de façon complètement involontaire.
Ouais, absolument. Mais là, entre autres, elle parle des dark patterns aussi, parce que parfois, peut-être qu'il y a des designers qui ne savent même pas qu'ils utilisent des dark patterns. Les impératifs commerciaux, parfois, nous obligent à être un peu plus... mettre de l'avant certaines choses. On ne s'en rend pas compte, mais on a des implications. Si, par exemple, on travaille dans le domaine du jeu, on peut avoir des implications qui font que les gens vont y mettre une partie de leur fortune. Donc, ces implications-là, ces choses-là peuvent avoir de l'effet sur les gens. Je pense que ça revient un petit peu aussi parfois, mais c'est couvert dans l'entrevue, on en parle, l'éthique de ce qu'on fait. Est-ce qu'on va jusqu'à un certain point pour convaincre nos utilisateurs de faire telle chose ou telle chose?
À partir de quel moment on dit non, finalement?
Ah oui, exactement.
Parce que c'est quand même une décision qui... Je ne vais pas dire qu'elle nous revient entièrement parce que c'est une responsabilité qui est partagée parmi toute l'équipe, mais on a quand même une place privilégiée pour mettre une opposition par rapport à certaines décisions de design.
Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que en tant qu'individu, même dans une équipe, on a toujours la responsabilité d'être capable de dire non ou de lever un flag en disant « je pense que cette partie-là, on ne devrait pas la faire. Elle va avoir un impact sur des gens au bout de la ligne, mais un impact négatif. »
C'est très intéressant. C'est un sujet qui n'est pas abordé énormément dans l'industrie. J'ai très hâte d'entendre ce qu'elle a à dire.
Ah, bonjour Cynthia, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Comme ça, il paraît que tu as écrit un livre sur Tragic Design, et puis tu l'as écrit avec co-auteur, c'est Jonathan Charrière, enfin, à prononcer en anglais, parce que c'est un Américain, tu me disais.
Oui, donc Jonathan, il a écrit un billet de blog qui s'appelle Tragic Design, qui expliquait comment une interface médicale a causé la mort d'une jeune patiente de cancer. Donc, c'est une interface qui était très complexe, et quand les infirmières... rentrer les informations sur le traitement qui est en train de lui donner, ils n'ont pas vu que ce traitement-là nécessitait 3 jours de réhydratation. Ce que ça l'a fait, en fait, ben, c'est qu'elle est décédée du traitement. Et quand Jonathan a appris cette histoire-là, il trouvait ça vraiment tragique. Donc, il a écrit ce billet-là. Et O'Reilly Media, la maison d'édition, qui est connue pour les livres qui ont les animaux sur la couverture. Souvent, c'est comme ça qu'on les connaît.
Quand tu parles de ça, tu parles également, tout à l'heure on en parlait, c'est donc le design a des impacts sur ce que les utilisateurs peuvent vivre. Ça peut, dans ce cas-ci, les tuer. Quelles autres formes d'impact tu peux avoir comme ça sur les gens?
On se demande souvent comment le design va aider. Tous les designers, ils disent qu'ils vont devenir designers pour aider les gens. Ils vont voir une situation puis ils vont dire « Hey, moi, je pense que je pourrais faire la différence. Je pourrais designer un affichage dans un aéroport différent puis ça va aider les gens à se trouver. » Puis c'est comme ça que les gens deviennent designers pour la plupart. Jamais les gens vont dire « Moi, je deviens designer pour faire de l'argent ou pour rapporter de l'argent à la compagnie. » Puis les gens ne pensent pas non plus à l'impact négatif que leur design pourrait avoir sur les gens. Ils pensent toujours à l'impact positif, ce qui est bien parce qu'il faut qu'on soit optimiste. Mais dans le fond, moi, mon livre, il se pose la question, c'est quoi les conséquences négatives de nos mauvaises décisions de design? Parce que, on va se le dire, on n'est pas parfait, on prend des fois des mauvaises décisions. Et puis, l'école ne nous apprend pas à se poser les questions, c'est quoi le problème avec ces mauvaises décisions-là?
Mais c'est pire que ça, là. En ce moment, tu dis même que un mauvais design peut avoir des conséquences. Nous, en design, en UX, en ergonomie, on n'a pas nécessairement d'ordre professionnel. Je pense qu'il y en a un en ergonomie, mais il n'y a pas nécessairement, comme un ingénieur, une responsabilité professionnelle si quelqu'un meurt de l'écrasement d'un pont. Dans l'autre cas, ça commence de plus en plus à être le cas, on peut avoir des incidences comme ça sur la vie des humains.
Absolument. Les designers ont des associations professionnelles, mais ils n'ont pas d'ordre professionnel. Puis une ordre professionnelle, par définition, le but, c'est de protéger le public. Puis c'est quelque chose que nous, on n'a pas. Puis comme je disais, à l'école, on n'apprend pas les conséquences de nos mauvais designs. Donc quand on arrive sur le marché du travail, ça devient vrai ce qu'on fait, mais on ne pense pas qu'on peut tuer des gens. Évidemment, on ne souhaite pas tuer des gens, personne ne souhaite ça,
mais
on
ne
pense pas, exactement. Et quand on regarde pourtant dans la littérature, il y a énormément d'exemples où est-ce qu'il y a eu des morts, dans des accidents certainement, où le design n'a pas nécessairement causé la mort, mais aurait pu prévenir la mort. Puis c'est un peu ça aussi qu'on aborde dans le sujet, toutes ces situations-là où le designer aurait pu faire une différence, avoir su. Mais évidemment, il y a un gros avoir su qui est plus facile en rétrospective que quand on est en train de faire le design en tant que tel.
T'as-tu des exemples à nous donner? Tout à l'heure, tu me parlais d'exemples qui peuvent fâcher.
Oui, en fait, c'est sûr que le plus choquant, c'est que le design peut tuer, mais le design peut aussi fâcher les gens, peut exclure les gens, peut faire de la peine aux gens. Si tu veux un exemple, par exemple, parce que le design peut fâcher, fâcher, ça peut se passer de différentes façons, mais une façon que le design peut fâcher, c'est en étant impoli. Puis on pense que la politesse, c'est juste dans la relation un à un entre les gens, dans une relation interpersonnelle, mais en réalité, un logiciel peut être impoli. Et quand un logiciel est impoli, c'est qu'il va prendre des comportements qui sont directement reliés aux gens qui sont impolis dans la vraie vie. Par exemple, quelqu'un qui se met de l'avant tout le temps. Non, mais moi, là. Ou quelqu'un qui coupe dans la ligne, là, qui va devant les autres en se posant pas trop de questions. Ou quelqu'un que tu lui dis « Ah ouais, moi je m'appelle comme ça » puis il s'en souvient pas après. Mais tous ces critères-là d'impolitesse dans les gens se retrouvent dans les logiciels. Par exemple, un logiciel qui va voler le focus de ce que tu es en train de faire.
Par exemple?
Un exemple qu'on donne, c'est l'application de Google Calendar. Donc, le calendrier de Google. Quand il y a un événement qui s'en vient, tu vas avoir un rappel qu'il y a un événement qui s'en vient. Ça, c'est très poli, c'est très gentil. Mais quand Google Calendar est ouvert dans un tab, dans un onglet en arrière, c'est pas ton onglet actif, il va voler le focus de ton onglet, mettre une fenêtre surgissante, donc une pop-up, que tu dois canceller pour ensuite continuer ce que tu es en train de faire. Donc là, il est en train de te voler toute ton attention parce que c'est lui soudainement qui pense qu'il est le plus important.
Et ça, c'est comme on disait aussi avant l'entrevue, c'est des dark patterns, c'est des façons de voler l'attention. Et là, tout le monde le fait, toutes les applications, au moins dans les ordinateurs, essaient d'envoyer les notifications les unes par-dessus les autres pour toujours te ramener vers des champs d'intérêt qui ne sont pas ceux qui s'occupent pour ton travail, par exemple.
Exactement. Mais c'est sûr que les dark patterns, c'est une façon de faire qui est vraiment néfaste, qui fâche beaucoup aussi. Là, c'est un autre chapitre complet dans notre livre. Il y a le chapitre fâche, puis il y a le chapitre attriste.
Oh, OK.
Donc, dans le chapitre fâche, il y a les dark patterns.
OK.
Le fait de mettre une notification qui vole l'attention de l'utilisateur, c'est pas nécessairement un dark pattern, c'est pas nécessairement un très bon pattern non plus. La différence entre du mauvais design et du dark pattern, c'est que le mauvais design, souvent, c'est le designer qui fait une erreur, qui fait une faute. Le designer ne sait pas comment faire quelque chose ou ne sait pas que ça va avoir un impact et fait une erreur, la personne subit l'erreur. Un dark pattern, c'est le designer, il est très intelligent, il utilise les biais conscients, les biais inconscients, à son bénéfice, au bénéfice de l'entreprise. Donc, il sait très bien que la personne va avoir de la misère à enlever l'assurance. Et puis, c'est pour ça qu'il va implanter ce pattern de design-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern et c'est très néfaste.
C'est fait sciemment pour un objectif précis, exactement, monétaire.
C'est toujours pour tromper l'utilisateur et l'utilisateur ne gagne jamais dans un dark pattern. On utilise le design contre l'utilisateur plutôt que de l'utiliser pour l'aider, ce qui devrait être le...
On se retrouve avec un élément inutile sur notre facture qui est imposé par une interface mal faite.
Exactement.
Pas mal faite, bien faite. Tromper l'utilisateur.
Exactement. C'est un peu... quand on pense à ça, là, ça ressemble un petit peu aux con men, des gens qui viennent, des charlatans, là, ouais, qui viennent te vendre et puis hop, finalement, tu es obligé aussi d'acheter ça. Finalement, tu es obligé d'acheter tel truc. Toutes ces techniques charlatantes de marketing, de vente à pression, tout ça se retrouve dans des patterns de design. Tu sais, juste si on parle, par exemple, d'une case à cocher qui est déjà cochée. Donc, le pouvoir de l'option par défaut est très, très, très important. Quand on regarde, par exemple, en Allemagne, plutôt que d'avoir à cocher la case pour faire un don d'organe, la case est déjà cochée puis la personne doit décocher la case pour faire le don d'organe. Mais la différence entre les deux, entre ici et puis là-bas, les chiffres sont pratiquement inversés. Là. J'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais c'est quelque chose comme ici, c'est 5% des gens et là-bas, c'est 95% des gens. Donc, si pour quelque chose comme donner un organe qui est très, très gros, ça a autant d'impact, imagine pour quelque chose qui a moins d'impact, comme un petit 5$ de plus dans ton panier d'argent.
Et donc, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que dans le cheminement du livre, maintenant, vous donnez vous décrivez plusieurs types de patterns comme ça, des exemples, des gens qui ont partagé, et là, tu dis, vous êtes en train aussi, à travers le livre, de proposer des outils, des solutions aussi.
Exactement. On a essayé de mettre beaucoup de solutions parce que c'est bien beau de dire le designer est responsable de ses mauvaises décisions, de ses mauvais choix,
mais comment faire pour les détecter?
Comment on améliore ça exactement? Ouais. Comment on améliore la situation? Comment qu'on empêche la situation d'empirer? Par exemple, il y a une expérience très, très simple à faire en équipe. Si on est une équipe de 10 qui travaille sur un projet, on peut faire ce qu'on appelle le « sad sheriff », donc le shérif triste. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui porte un chapeau. Donc, le « sad sheriff », c'est un exercice qu'on peut faire en équipe où chaque membre de l'équipe, à chaque semaine, change, elle porte le chapeau. Et la personne qui porte le chapeau est responsable de représenter l'utilisateur qui est triste. Donc, cette personne-là, dans un brainstorm, va toujours ramener « Oui, mais qu'est-ce qui arrive si notre utilisateur il est handicapé? » Donc, son travail, c'est dans chacune des rencontres de développement du produit, d'être cette personne qui rappelle tout le temps « Oui, mais moi, je suis déprimée, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais moi, j'ai des idées suicidaires, est-ce que tu vas m'aider? Oui, mais moi, mon père est décédé la semaine passée, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? » Et ça permet justement de créer... parce que c'est difficile de penser à toutes les situations possibles. Ouais. Tu ne peux pas penser à tout le monde. Même en faisant des tests utilisateurs, on le sait, on ne peut pas tester avec 2 millions de personnes. Ça ne se peut pas. Donc, ça permet de déceler toutes ces avenues potentielles dangereuses. C'est sûr, on parle aussi du danger de se mettre soi-même tout le temps dans la peau de l'expérience, dans la peau de l'utilisateur. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas la solution ultime non plus. Donc, ça peut pas être utilisé en isolation puis dire je vais juste faire ça puis ça va être suffisant. Moi, je vais m'imaginer en tant qu'une personne handicapée. Tant que tu l'as pas été, c'est très difficile à se mettre dans la peau. Un peu comme j'avais lu cet exemple-là que je trouvais excellent, un enfant qui se déguise en astronaute puis qui se met dans une boîte en carton avec du papier d'aluminium partout.
Ça fait pas de lui un astronaute.
Ça fait pas de lui un astronaute. Même s'il se met dans la peau de l'astronaute, même s'il est persuadé qu'il est un astronaute puis il va dire ce qu'il a vu dans les films, il va faire ressortir les stéréotypes de ce que c'est qu'un astronaute. Il va pas faire ressortir la vraie expérience de ce que c'est. Bon, donc, c'est un peu la même chose. Je peux m'imaginer à travers, là, mais tant et longtemps que j'ai pas vécu, que j'ai
c'est pas. C'est pas parce que tu vas te fermer les yeux que tu vas être aveugle.
Exactement. C'est pas parce qu'on se ferme les yeux qu'on est aveugle. C'est une bonne
phrase. Pas pire, hein?
Oui, oui. C'est, je pense que ça va être le nom de ma prochaine conférence. Donc, on appelle ça de l'empathie projetée. Donc, on se dit, je vais designer parce que les gens vont avoir besoin de ça, mais en réalité, c'est, tu penses que toi, tu as besoin de ça, puis tu fais de l'empathie que tu projettes sur tes utilisateurs potentiels. Donc, ça, c'est une autre chose à prendre en considération. C'est-à-dire, oui, il y a des bons outils, mais ça peut pas être juste des outils qui sont utilisés en isolation. Il faut qu'ils soient utilisés avec des tests, avec des entrevues, avec de l'observation.
Avec des vrais utilisateurs aveugles,
avec des vrais astronautes. On donne des trucs comment faire des tests avec des gens aveugles, justement. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Shopify, et puis c'est quelque chose que je suis très, très fière d'avoir implémenté aussi.
Donc, ça va être intéressant. C'est un livre qui est vraiment recommandé. Il va sortir à quel moment?
En ce moment, on vient de finir la première partie d'écriture. C'est-à-dire qu'on a fini l'écriture du manuscrit, on rentre en processus de révision. Donc, on va avoir une première révision technique. On pense à une publication au mois d'avril, quelque chose comme ça.
Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Cynthia. On va se reparler bientôt.
Parfait.
Merci.
Merci.
Si vous voulez en savoir plus sur le Tragic Design, nous vous conseillons bien sûr de lire le livre coécrit par Cynthia, disponible sur le site de O'Reilly Media. Vous pouvez également lire l'article publié par Luca Morovian, « How might bad UX design might kill you in the future? » Vous retrouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de The UXer. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes. Vous pouvez aussi nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours très apprécié.
Nous aimerions également remercier les Vues et Voix pour les studios d'enregistrement et également Perrine Vin pour son identité graphique de The UXer.
Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous rejoindre sur les médias sociaux ou sur le site internet theuxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!